Aujourd'hui, la masterclass de Jules avec Antoine Guillot.
Bienvenue dans cette masterclass avec Jules, enregistrée en public à la Maison de la Radio. Jules, il aurait pu devenir le nouveau Simon Leys, s'il avait voulu, normalien, agrégé d'histoire, sinologue, Julien Bergeau. Un certain Julien Bergeau se rêvait chercheur en ethno-histoire à l'école française d'Extrême-Orient. Il avait fait des recherches sur la diaspora chinoise à Calcutta notamment et sur la route de la soie. Malheureusement pour la sinologie, heureusement pour nous, heureusement pour nos zygomatiques, ce fils du mammouth, il faut le dire, hein, ses deux parents enseignaient au collège, ce fils du mammouth était possédé depuis l'enfance par le démon du dessin de presse. Il est né sous la présidence d'Alain Poher, et oui, Alain Poher a été président de la République. Un jour, il vendait tout marmot dans la cour de récréation un journal, son journal, il le vendait 1 franc. Le journal s'appelait le Julien Déchaîné. À 12 ans, il a remporté au Festival d'Angoulême le 3e prix du concours jeunesse avec 2 pages sur un pingouin au pôle Nord, paraît-il. On a très envie de l'avoir. Alors, s'il a enseigné un temps, il était fatal que le professeur finisse par se défroquer et que Julien Bergeau devienne Jules, un dessinateur de presse tout d'abord, qui après des premières armes à la Nouvelle République, public des Pyrénées a vite envahi quasiment l'ensemble de la presse nationale, de Marianne au Nouvel Observateur, aux Échos comme à l'Humanité, où vous dessinez toujours tous les jeudis. Vous étiez aussi dans l'Écho des Savanes, et puis dans Lire, dans Philosophie Magazine, et bien sûr dans Charlie Hebdo pendant 14 ans. Le dessin d'actualité, vous l'avez exercé aussi à la télévision. C'était pendant longtemps à la Grande Librairie de François Bunel, actuellement dans 28 minutes sur Arte, toujours.
De temps à autre.
Et puis, il est évidemment, peut-être et surtout, auteur de bandes dessinées. Ça avait commencé avec un succès inattendu, celui où on tentait de tuer José Bové. Il faut tuer José Bové, c'était en 2005. Vous l'avez certainement lu à l'époque, satire très corrosive et tout à fait hilarante de l'altermondialisme. Et puis, il y a eu La Croisade s'amuse, le journal intime de Madame Ben Laden. Et puis, depuis, l'immense succès de sa série Silex and the City, cette chronique à la fois moraliste et paléo de notre monde, transposé en 40 000 avant Jésus-Christ. La famille .com a même envahi le petit écran, comme les Simpsons, avec une série animée à succès, dont il est à la fois le scénariste et le directeur artistique. Une série diffusée pendant 5 saisons sur Arte, où tout le petit monde de la politique s'est pressé pour venir enregistrer quelques voix de héros de cette saga primitive. Et aujourd'hui, c'est par le prisme de la mythologie grecque et latine que vous poursuivez cette tâche sacrée, celle de nous faire rire de nos peurs, de vos peurs aussi, peut-être, et du monde contemporain, de nous faire rire du pouvoir, de l'oppression, des catastrophes climatiques et autres qui arrivent, de nous faire rire des masses médias, de la société de consommation, du monde du travail, et puis surtout de nous-mêmes, de nos propres turpitudes. C'est avec 50 nuances de grec, qui est également à la télévision, et en album de bande dessinée. Alors je rajoute encore que vous avez été lauréat en 2007 pour le guide du moutard du très prestigieux prix René Goscinny, ce qui vous a valu, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais 10 ans plus tard, de marcher sur les pas de René Goscinny, puisque vous avez repris le flambeau du scénario de la série Lucky Luke. Déjà 2 albums à votre actif, dont le dernier a vu le cow-boy solitaire arpenter pour la première fois à cheval les rues de Paris. Voilà, c'est peut-être encore d'autres activités que j'ai oubliées. Vous êtes donc un homme très occupé. On vous remercie infiniment donc d'être venu ici à la Maison de la Radio pour cette rencontre, cette masterclass. On vous remercie d'avoir quitté votre planche à dessin et vos studios d'animation. Vous allez, puisque c'est le but de ces masterclass, nous expliquer comment tout ça se fabrique au jour le jour. Alors je l'ai dit tout à l'heure, vous avez pratiqué dès l'enfance le dessin de presse. Comment ça vient à un enfant de se dire, tiens, je vais tous les jours faire des dessins, et puis je vais en faire un journal, et puis je vais aller le vendre? Vous baignez dans un environnement comme ça, où il y avait des vieux Charlie Hebdo qui tapissaient votre berceau quand vous étiez petit?
Alors oui et non, pas tant que ça. Moi, mes parents sont pas du tout dessinateurs, et à la fois, j'ai vraiment quasiment appris à lire dans les bandes dessinées. J'avais un oncle qui était vendeur représentant, en fait, dans les cartons, et qui, du coup, faisait beaucoup de tours de France en voiture. Et à l'époque, c'était vraiment en plein boom pétrolier. On distribuait des albums promotionnels de bandes dessinées classiques, mais avec les sigles Esso, Total, Antares. Et donc, il me ramenait à chaque fois des albums à la maison. Et donc, mes premiers Lucky Luke, mes premiers Astérix, je les ai eus comme ça grâce à lui. Et j'adorais ça, ça me fascinait. Et puis, c'était cet univers, cet humour-là me correspondait. Mais mes parents étaient ni lecteurs de bande dessinée, ni artistes même. Mais j'ai eu la chance d'être vraiment le produit de la pensée mai 68. Et donc, mes deux parents profs dans un système classique se sont débrouillés pour que je me retrouve dans une école fabuleuse, depuis la maternelle, qui était une école alternative, un peu dans l'esprit Montessori. C'était un petit peu différent, ça s'appelait l'école de Croly, dans le bois de Vincennes. Et c'était une école publique, pour le coup, parce que c'est pas toujours le cas pour ce genre d'école, où on apprenait un petit peu une forme d'école par la vie, c'était un peu leur slogan, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de hiérarchie entre les matières et on encourageait énormément à la fois la remise en question, à la fois des hiérarchies, des conventions, de l'autorité. Et donc on encourageait chez chacun des élèves une façon de s'exprimer qui lui ressemblait. Et donc des gens apprenaient à lire à l'âge de 8 ans, 5 ans, 10 ans. C'était, chacun avait son rythme propre. Et donc, moi, j'aimais bien dessiner. Et j'ai eu un professeur qui s'appelait Monsieur Biot. Je me souviens bien de lui, qui était une espèce de géant moustachu, qui a dit à mes parents, vous savez, il aime bien dessiner, vous devriez lui offrir les rubriques à braque de Gottlieb. Et pour Noël, je pense que c'était, si je me souviens bien, en CE1, l'équivalent du CE1, on disait pas ça, on disait 10e, 9e, etc. Et j'ai reçu ce tome 1 des rubriques à braque. Ça a été comme une espèce de révélation totale. Et s'il y a un seul dessinateur que j'ai vraiment copié et copié encore, c'était Gottlieb, en fait. Je recopiais ses dessins. Et donc, il y a eu à la fois des gens qui ont servi de chambre d'écho pour cette envie diffuse que j'avais de dessiner. Et on sait bien, en fait, et je pense que c'est en partage de beaucoup de dessinateurs de bande dessinée, du moins de dessinateurs d'humour, mais je sais que c'est quelque chose que Johan Sfar peut dire, probablement Riyad Satouf aussi, plein d'autres gens disent ça, c'est qu'on se met à dessiner à l'école, tous les enfants dessinent un peu, mais pourquoi est-ce qu'on publie des dessins? Pourquoi est-ce qu'on publie des dessins d'humour? Pourquoi est-ce qu'on les montre autour de nous? C'est parce qu'on veut s'attirer une forme de sympathie, s'intégrer dans le groupe. Moi, quand j'étais adolescent, je me suis jamais mis à fumer parce que le dessin d'humour avait la même fonction, c'est-à-dire d'intégration dans le groupe des gens cool et de pouvoir en fait se rendre intéressant auprès des filles surtout. Et donc moi, ma façon de me rendre intéressant auprès des filles, j'étais pas le plus athlétique de la classe, j'étais pas celui qui avait les attributs sociaux les plus mirobolants, mais en revanche, ce dessin à la fois crée une forme de connivence avec les garçons et de charme avec les filles. Et donc on se raccroche toujours aux basses branches, et finalement c'était une chance de pouvoir d'être encouragé dans ce côté-là, parce que évidemment dans ce système-là qui a duré jusqu'à la troisième pour moi, et ben tout le monde me disait mais oui c'est formidable de faire des journaux, le Julien déchaîné que je vendais, que je photocopiais en douce et que je vendais à... j'avais trouvé un système en plus qui était assez efficace, qui était je me débrouillais pour que notamment les mères de mes copains je leur vende des abonnements à vie. Et là, c'était pas un franc, c'était, je crois, 20 francs, voire même 100 francs.
Et donc, vous êtes un dessinateur totalement autodidacte. Vous avez jamais fait d'école de dessin, parce que je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes plutôt passé par les prépas littéraires, l'école normale supérieure, l'agrégation, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez ou
Alors, je le regrette un peu. C'est pas tout à fait vrai, dans la mesure où, en fait, j'ai fait des ateliers de bande dessinée. Ça existait, il y avait pas d'école de bande dessinée à proprement parler, mais étant petit, il y avait un truc qui s'appelait les ateliers du Louvre, dans le Louvre. C'était magnifique. Et en fait, on nous apprenait pas réellement de technique, mais on nous donnait les conditions matérielles, le papier, les encres, qui permettaient d'expérimenter des techniques. Mais effectivement, j'ai pas eu d'enseignement académique du dessin, d'où, évidemment, mes énormes lacunes, techniques. Je serais incapable d'exécuter une anatomie rigoureuse, de faire un grand plan de ville avec des architectures et des perspectives justes. Donc en gros, je bricole. Je bricole depuis le début, depuis l'âge de 5 ans. Ce qui est presque à la fois effrayant et rassurant, c'est que quand on regarde ces journaux, le Julien déchaîné, il y a eu plusieurs titres. Ensuite, il y avait Hyperite, il y a eu Neige et Soleil, c'était différents journaux que je faisais. Et le style n'a pas énormément changé depuis l'âge de 8 ans. Et en même temps, on voit une cohérence, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui me ressemble. Et depuis le début, je fais ce qui me ressemble. Probablement aussi, un des enjeux, c'est de faire de ses faiblesses une force, parce que aussi mes personnages sont des espèces de gros bonshommes, caoutchouteux, un peu bonshommes patates, avec des yeux en boule de loto, de la famille plutôt d'un Matt Groening. Moi, j'aime bien cette formule des familles de dessinateurs qui, ceux qui savent dessiner et ceux qui savent pas dessiner. Et pour autant, les dessinateurs qui savent pas dessiner sont pas forcément moins bons que ceux qui savent dessiner. À Charlie Hebdo, par exemple, typiquement, un Cabu était un dessinateur merveilleux qui savait, qui avait une technique, un art de la caricature, du mouvement. Et dans ses enfants, il y a Luz, il y a Catherine Meurice. De l'autre côté, bah, il y avait Volinsky, qui avait un dessin vraiment minimaliste, jeté comme ça, assez simple. Charb était de cette famille-là. Moi, probablement, je suis de cette famille-là aussi. C'est-à-dire que c'est des dessinateurs qui ont un univers, je dirais, restreint graphiquement. Et en même temps, du coup, on est obligé d'être plutôt malin, d'être dans un humour de situation, de dialogue. Et on peut pas juste se cacher derrière une maestria graphique que d'autres auraient. J'en rêverais, hein, peut-être dans une autre vie, de faire des choses très différentes, mais probablement j'en suis incapable. Donc ça m'accompagne comme ça. Et malgré tout, j'exagère un petit peu, parce que quand je regarde même mes premiers albums publiés de bande dessinée, je trouve ça affreux, et je me dis j'ai quand même fait vachement de progrès depuis Il faut tuer José Bové, mais en fait les blagues sont quand même bonnes dans Il faut tuer José Bové, voilà.
Oui, et je précise que dans le dernier Silex and the City, l'homme de Cro-Macron, quand ça ressemble à du Bilal, c'est parce que c'est Bilal qui s'est invité dans votre dans
voilà
votre
parce que en fait j'avais trouvé ce système dans les dessins animés Silex and the City et ensuite 50 nuances de grec. Moi c'est quelque chose qui m'avait fasciné dans les Muppet Show, que j'adorais étant petit. D'ailleurs avant que ce soit un dessin animé, l'adaptation de Silex and the City sur Arte a failli être un show de marionnettes. En fait, on n'était pas sûr de passer à l'animation. Finalement, on a fait ce choix-là. Dans ces adaptations animées, évidemment, les voix sont très importantes. Et il y avait des guests, comme dans les Muppet Show, comme dans les Simpsons, autant de références pour moi, qui prêtaient leur voix. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas le faire en bande dessinée? Et donc, dans L'Homme de Cro-Macron, là, qui est un tome 8, je n'avais pas fait auparavant, j'ai proposé à Bilal de venir amener un de ses personnages. C'est un personnage de start-upper cro-macronien, le fondateur de Pierre BNB, hein, qui est le site de location de cavernes entre particuliers, qui drague Spam.com, la mère de famille. Et donc, elle fait une infidélité avec son mari. Elle couche avec un personnage de Bilal. Elle dit, purée, mais qu'est-ce qu'il est bien dessiné. Jamais je pourrais faire quoi que ce soit. Et c'est presque bizarre quand on regarde ces deux pages, parce que c'est presque gênant. Il y a déjà un problème de proportion. On est obligé de faire des cadrages pas possibles pour faire rentrer un personnage de Bilal dans la même case qu'un de mes personnages. Et puis, c'est comme si, imaginez, faire coucher un Botero avec un Léonard de Vinci. Vous voyez, c'est vraiment très, très bizarre.
Alors, on a eu la référence à la bande dessinée avec les rubriques à bras, le Muppet Show pour la télévision. Est-ce qu'il y a d'autres formes d'art qui vous ont influencé, très manifestement la littérature?
Oui, mais j'ai eu une gourmandise littéraire très tôt, mais sans obligation. C'est ça qui était pas mal, en fait, dans mon système d'éducation. C'est vraiment qu'il y avait plein de choses proposées. Et puis, je me souviens que j'avais une prof qui s'appelait Nicole Roger, qui était la prof de français. Elle nous avait donné, peut-être en sixième, 8 pages écrites à la main, comme ça, qu'elle avait photocopiées, avec une histoire de la littérature, enfin, juste des titres, comme ça, de choses qu'elle nous proposait de lire. Et ça allait de Don Quichotte à Nathalie Sarraute, en passant par tout ce que les différentes civilisations avaient pu produire en littérature. C'était très varié, très éclectique, et ça m'a servi, en fait, d'une certaine façon, de chemin de traverse dans la littérature par rapport à, aux prescriptions classiques, scolaires. Ça m'a probablement, d'ailleurs, orienté vers l'histoire et ensuite l'anthropologie, qui a été pour moi la grande matière fondatrice intellectuellement. C'est quelque chose qui a complètement changé ma façon de voir le monde, et de se dire que les écrivains russes, les écrivains japonais, les écrivains du monde arabo-musulman, ils ont des façons de voir et de raconter qui sont tellement différentes de nous. Ce décentrement là le décentrement, il est marrant quand on fait de l'humour, de faire le pas de côté, mais plus largement, pour comprendre le monde et savoir qui on est soi-même, cette expérience de l'autre est vachement enrichissante, et on la trouve évidemment dans la littérature. Ceci dit, ça me nourrit vraiment, ça me donne envie, ça m'excite, ça me tient réveillé, mais c'est sûr que ce ne sont que des espèces de scories et des petites bribes qui sont éparses dans mon travail. En revanche, là où c'est sûr que l'influence est très directe, en dehors de ce qu'est la bande dessinée, c'est le cinéma et la comédie au cinéma. Et en fait, d'un côté, ce rythme extraordinaire qu'est le rythme de la comédie américaine. Je me souviens, il y avait quelqu'un d'autre qui était le mari d'une collègue de ma mère qui s'appelait James Nataf, qui était banquier. Et en fait, je pouvais aller dormir chez eux pendant plusieurs week-ends de suite, parce qu'ils avaient toutes les cassettes VHS des Marx Brothers. Et en fait, j'ai regardé en boucle chez eux les Marx Brothers, j'ai découvert ça chez eux. Et ça, ça a été très important pour moi. Il y avait Mel Brooks, que je trouvais hilarant aussi. Et puis, ça c'était d'un côté. Ensuite, j'ai découvert Woody Allen un peu plus tard, mais en fait, qui est souvent en filigrane dans mon travail, même si c'est il y a moins le côté ultra cérébral new-yorkais évidemment que lui véhicule, mais ce dispositif de gens qui racontent un peu leur vie comme ça, cette espèce de puis cet écho en permanence de la psychanalyse, moi il compte pour moi. Peut-être on pourra en reparler, mais pour moi c'est le travail sur le langage est vachement lié à ces questionnements là. Mais ensuite, et il y avait surtout ces génies français de la comédie qui pour moi était la seule raison qui me permettait d'ailleurs de rester éveillé le soir, parce que mes parents me laissaient regarder la télévision quand il y avait les films de Louis de Funès, de Pierre Richard. Et donc j'ai découvert par la suite que derrière ça, c'était pas que des acteurs, il y avait justement ces réalisateurs. Et Gérard Oury et Francis Weber, pour moi, ça a été aussi l'alpha et l'oméga de ma façon de voir le monde.
Alors, cette collision, je dirais presque, entre la plus que fusion, c'est-à-dire qu'il y a un effet de collision chez vous entre culture populaire et culture dite savante, qui passe beaucoup par les jeux langagiers pour vous, et notamment par ces jeux de mots. Je cite quelques titres de certaines de vos histoires, Platon Lagaffe par exemple, ou Da Vinci Digicode, évidemment les 50 nuances de grec, mais aussi la guerre du 9-3 n'aura pas lieu, ou encore celui que je préfère, les bronzés font du Chomsky. Voilà, ça me réjouit absolument. Est-ce que ce sont des choses qui sont travaillées chez vous, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de conscient, ou ça s'impose presque de manière inconsciente? Enfin là, c'est vraiment le côté lacanien chez vous, le langage produit ce genre de collision.
C'est un peu tout à la fois. Déjà, tout simplement, je me suis rendu compte que pour avoir une visibilité, c'était très marrant d'avoir une espèce de perspective un peu parasite de la culture de masse. Parce que aussi, ça parle de ça, moi, très souvent, et l'humour, c'est souvent ça aussi, ça utilise des clichés, ça utilise un certain nombre d'évidences de la société en les décalant. Donc en fait, il faut trouver quelles sont les références les plus massives, les plus universels, pour pouvoir s'en saisir. Et donc, en fait, quand j'ai créé Silex and the City, j'avais jamais vu Sex and the City, mais je me suis dit, mais c'est marrant, en fait, d'utiliser ce mot qui est dans l'oreille de tout le monde, 50 nuances de grec, etc. Et donc, c'est devenu un peu ma marque de fabrique dans les titres, d'avoir ce truc-là qui attire l'œil tout de suite chez les libraires. Et donc, voilà, les gens ont envie de lire le livre, même si ça parle pas de ça. Donc déjà, c'est un petit truc presque commercial, en tout cas, pour susciter du moins l'empathie et l'intérêt d'un lecteur. Tout de suite, tac, il voit ce titre et puis il se marre et puis il ouvre. Il sait pas, du coup, de quoi ça va parler. Est-ce que ça va être une critique frontale? Est-ce que ça va être un pastiche? En général, c'est même ni l'un ni l'autre. C'est juste une espèce de petit hameçon, de petit signe de piste. Mais ça raconte effectivement cette volonté que j'ai, en tout cas, et même a posteriori, je m'en rends compte, c'est pas quelque chose que je pense énormément en amont, mais de mettre en scène cette culture de masse qui, moi, à la fois me gêne et dont on est tous, je dirais, le produit naturel. Moi, j'adore Nanni Moretti. Il y a dans Journal Intime, en fait, un des personnages copains de Nanni Moretti, qui est un auteur, philosophe, puriste, qui n'a jamais eu de télévision, qui n'a jamais voulu entendre parler de la télévision. Et puis un jour, je sais plus quelle circonstance, il a une télé et puis il découvre en fait les feuilletons complètement débiles et il devient absolument accro. Et donc en fait, ils font une balade autour, je crois, du Vésuve ou quoi, du Stromboli. Et le type lui court après, puis demande aux Américains qui sont là, aux touristes, parce qu'ils ont une saison d'avance sur les séries débiles qu'ils regardent. Est-ce que Cindy a couché avec Kent? Donc, et c'est un peu ça. Donc, on n'échappe pas à cette grande culture de masse et il faut en faire quelque chose. Et pour pouvoir s'en détacher, pour pouvoir se libérer de ça, de ce qui est quand même, je dirais, une forme de coercition mentale. C'est difficile de sortir, une fois, mais avec en plus les réseaux sociaux, les nouveaux modes de diffusion, on est en permanence bombardé et prisonnier soi-même d'une espèce de servitude de consommation. Et ça, c'est un outil. Et je pense probablement que pourquoi est-ce qu'il y a aussi une bonne réception et pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui finalement ont fini par suivre les séries que je faisais, etc., c'est parce qu'on a en commun cette idée que on peut peut-être faire autre chose de ce qu'on nous donne à manger. Et ce petit pas de côté, le pas de côté, c'est quelque chose qui a été tellement mis en scène et raconté par GB notamment, qui était l'auteur de l'an 01, mais aussi de tous ces dessins justement qui remettent en cause le système et la façon de penser. C'était sa phrase, c'était « on arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste ». Et c'est vraiment ça. Et donc cette utilisation du langage, en dehors de ce petit côté donc que je vous disais d'hameçon, de harponnage un petit peu d'un lecteur qui connaîtrait rien et qui irait vers le travail que je propose, il y a aussi effectivement ce rapport au langage et l'humour. Je crois, j'ai toujours eu envie que des neurologues s'intéressent à la zone de l'humour dans le cerveau, en fait, parce qu'on met des petits capteurs et on voit quelles zones s'allument. On l'a vu pour les zones de la consommation. de la colère. Quand dans les institutions judiciaires, on essaie de voir les violeurs, les psychopathes, quelles zones les pédophiles, quelles zones s'allument, et toutes sortes de comportements, les comportements de mémoire, de remémoration, de tels souvenirs très enfouis d'enfance, ou bien au contraire, telle ou telle chose, on voit où ça s'allume. Mais je crois pas que j'ai jamais lu d'études, du moins sur la zone de l'humour. Où est-ce que ça se passe? Quand on invente une blague, deux choses d'ailleurs. Où est-ce que ça, en plus, avoir de l'humour, c'est ambigu comme formulation, parce que on dit quelqu'un qu'il a de l'humour parce qu'il rit aux blagues qu'il reçoit, ou bien parce qu'il en produit. C'est pas la même chose. Hein. On peut être récepteur ou émissaire de l'humour. Bon. Et du coup, cette question-là, par rapport au langage, elle est passionnante parce que je pense que l'humour est dans cette zone grise du cerveau entre le conscient et l'inconscient, dans cette zone qui est entre la veille et le sommeil, dans la zone du lapsus. Dans la zone du mot d'esprit freudien, du jeu de mots lacanien. Et en fin de compte, moi, je me rends compte que très souvent, pour trouver des blagues, les moments où je suis le plus performant intellectuellement, où je travaille le mieux, c'est à la fois au réveil, si je reste un peu dans mon lit comme ça, en me concentrant sur tel ou tel sujet, mais je suis pas complètement... C'est l'état proustien, hein, l'état entre la veille et le sommeil, c'est de vision, justement, où on traverse le temps, on traverse les couches de conscience et de souvenirs pour faire communiquer des choses qui normalement sont hermétiquement séparées dans la conscience claire, nette et éveillée. Et en fait, il y a des surgissements, justement, en changeant un mot. Et on dit, mais oui, mais non seulement c'est un peu une vanne en changeant tel ou tel mot, mais ça veut dire quelque chose au-delà. Ça raconte quelque chose de plus profond, de la réflexion inconsciente. Et ce carottage-là à travers la conscience, cette zone grise, je pense que elle est plus ou moins isolée. Et chez les gens qui travaille dans le domaine de l'humour en particulier, peut-être toute la création d'ailleurs, mais en tout cas de l'humour en particulier, et pas seulement donc du coup en dessin, hein, mais dans l'écriture, chez les comédiens, etc. Il y a une porosité plus fine. Peut-être que ça affleure, ben voilà, comme certaines couches océaniques, à certains endroits de l'océan, ben, les couches à telle température, elles sont plus ou moins proches de la surface. Et ben, c'est ça. Parce que très souvent, il y a certaines couches tièdes où il y a le plus de zooplancton et de phytoplancton que d'autres. Et c'est là où il y a les blagues. C'est la zone du phytoplancton mental de la blague.
Alors, vous êtes un petit plancton qui passe de couche en couche aussi, parce que votre humour se compose de plusieurs types d'humour différents. Il y a le gag pur qui est voilà juste quelque chose de drôle qui pourrait se passer un peu partout. Il y a la référence décalée à l'actualité, à tous nos travers contemporains. Et puis, il y a la caricature qui est encore une autre forme d'humour. Alors, quand vous faites un livre comme Silex and the City... Comment ça se produit? Vous écrivez d'abord un scénario qui va être l'arc narratif général de l'album. Vous improvisez au fur et à mesure. Vous donnez des thématiques que vous voulez utiliser. Vous dites, tiens, je vais faire intervenir tel personnage, le Cro-Macron, par exemple, ici. Et puis, vous demandez aussi comment je vais le dessiner. Parce que vous parliez de Cabu tout à l'heure, dessinateur né. Dans son livre Indélébile, Luz explique sa difficulté à caricaturer François Fillon et la difficulté de l'ensemble de la rédaction de Charlie Hebdo, il n'y avait que Cabu qui avait trouvé le truc. Alors, le dosage des différents types d'humour, première question, et comment est-ce que vous trouvez un personnage en caricature, sur quoi vous vous appuyez?
Alors, c'est un peu bordélique, à vrai dire.
Comme ma question.
Voilà, je dirais c'est un peu une nappe de charriage. Tout vient au petit bonheur. Il n'y a pas de recette. Comme souvent, ce serait le grand confort. Et si, je dirais presque, il y avait un système d'intelligence artificielle et de big data qui pouvait produire l'humour, on serait à la fois au chômage et en vacances. Mais je me mets dans cet état, justement, un petit peu intermédiaire, pour que ben les choses naissent, en orientant mon idée. Voilà, quand j'ai commencé à travailler sur Silex and the City, il y avait cet univers de la préhistoire, et donc je me dis, bon, qu'est-ce qui me vient spontanément? Donc c'est des notes éparses. Il y avait eu une expo sur Astérix à la BNF il y a quelques années de ça, où ils exposaient les scénarios et les carnets surtout de Goscinny. J'ai été interloqué devant ces vitrines. C'était pas les vitrines devant lesquelles les gens s'arrêtaient particulièrement, c'est des pattes de mouche sur des carnets. En fait, je faisais exactement comme lui, c'est-à-dire, il fait Astérix chez les Belges, et en fait, il fait une liste de tout ce qui concerne les Belges et la Belgique. Géographie, lieu, nom de famille, qu'est-ce qu'ils mangent, les clichés, les blagues sur les Belges, les expressions, il y a le mot belge, ou il y a le mot wallon, ou le machin. Il fait des listes, comme ça, des colonnes. Et ensuite, il fait des petites flèches, parce que tel mot, tac, ça lui donne un gag, tel autre mot, ça lui donne un gag. Et puis... Et en fait, petit à petit, ça compose une espèce de paysage narratif sur lequel il va construire son histoire. Mais d'abord, il donne une couleur et il va à la pêche. Moi, je fais exactement comme ça. Je me dis, bah, si je vais faire un truc sur la Fashion Week et Silex and the City. Alors, la Fashion Week, tout ce que ça évoque, les clichés, les trucs, la façon dont ça se passe, et que ce soit vraiment très en amont ou très en aval de la problématique, quels auteurs ont écrit là-dessus, voilà. Mais c'est de la même façon, sur Wittgenstein, sur, le terrorisme, sur la géopolitique, sur, l'industrie, automobile. Je fais des listes comme ça de toutes les choses, des noms de constructeurs, des noms de marques, des vieux slogans dont je me souviens, de publicité, ce que les gens au café disent à propos de la bagnole en général, les opposants à la bagnole, les gens qui sont pro-bagnole, etc. Et je fais des listes comme ça. Et à partir de ces listes, bah, des choses naissent, des espèces de et en fait, quand c'est des espèces de collision d'univers, c'est-à-dire la préhistoire et notre époque contemporaine, par ailleurs, j'ai une espèce de bible, Silex and the City, où j'ai une liste, en fait, de toutes les aires géologiques, toute la faune préhistorique, l'outillage, les termes de peinture rupestre, etc. Et donc et en fait, je regarde, je mets les deux fiches côte à côte, et en fait, il y a comme des espèces d'éclairs, de choses invisibles, de liens qui se font d'une feuille à l'autre, et ça crée ces histoires. Et ensuite, on se laisse porter, parce qu'au bout d'un moment, il y a des personnages qui ont des caractères propres, et en fait, c'est eux, c'est cette grammaire du personnage. Après, au bout de 8 tomes, il y a 180 épisodes du dessin animé de Silex and the City, je les entends parler. Quand il y a en plus de l'animation autour, je suis aidé beaucoup par l'existence des comédiens, parce que ils viennent au début, c'est eux qui rentrent dans cet univers de bande dessinée préexistant. Mais à partir d'un moment, en fait, moi, quand je fais des albums, j'entends parler les comédiens.
Justement, c'est la question que je me posais. On reviendra tout à l'heure à la deuxième partie de ma question, mais est-ce que le fait que ces albums aient été adaptés a changé votre façon d'écrire? C'est-à-dire que quand vous écrivez, dessinez une histoire qui va paraître en album, est-ce que vous pensez déjà à la mécanique audiovisuelle qui n'est pas la même dans le récit et qui fait que vous vous interdisez, par exemple, d'écrire une histoire qui sera compliquée à faire, à mettre à l'écran?
Non, au contraire, ça s'est entrenourri au fur et à mesure des années. Au début, la première saison, ça venait vraiment des albums. Donc, c'était vraiment un travail d'adaptation. Et puis, petit à petit, je me suis mis à écrire simultanément les albums et l'animation. Donc, il y avait des choses qui étaient proprement audiovisuelles. Il y avait des parodies, des pastiches de comédies musicales, de films existants. C'est des choses où il fallait vraiment du son, une forme de découpage qui donnait rien du tout aux bandes dessinées. Et puis, d'autres choses, finalement, où il fallait vraiment pouvoir lire les mots, lire les acronymes. Et ça passait pas du tout en audiovisuel. Donc, il y avait des limites dans la communication. Mais c'est vrai que les choses se portaient les unes avec les autres. Et puis, par exemple, il y a le personnage de Diane de Brassempouille, qui a la gueule de la Dame de Brassempouille, qui est une espèce de petite statue, qui est exposée, au musée, à Saint-Germain-en-Laye, au musée d'histoire, c'est Vénus préhistorique magnifique. Elle a cette gueule-là, en fait, la cousine. Elle est top modèle, et puis c'est une espèce d'aristo-sapiens complètement snob, raciste, etc. Et c'est Amélie Nothomb qui a prêter sa voix au personnage. Et quand je la mets en scène dans les albums qui ont été faits après l'adaptation, en fait, j'ai comme une espèce de Amélie Nothomb intérieure qui parle avec sa voix comme ça, qui prend un accent un peu spécialement snob, mais comme probablement le côté diplomate belge de sa famille, on avait le secret. Et c'est elle qui parle dans ma tête pour ensuite faire vivre de manière juste ces personnages.
Alors, je n'ai pas oublié la deuxième partie de ma question. Comment se fait la caricature? Est-ce que c'est un art particulièrement difficile pour vous? Est-ce que un personnage qui existe dans la vie courante arrive très facilement sous votre crayon?
On ne sait pas. Je ne crois pas qu'il y ait non plus trop de techniques, mais à la longue, on se rend compte que selon les dessinateurs, y a des gens qui commencent plutôt à dessiner, à se focaliser sur le regard, d'autres sur le nez, d'autres sur la bouche, d'autres sur la silhouette. Et puis, effectivement, il faut trouver un point d'ancrage dans un personnage quand on doit le mettre en scène, le caricaturer. Et donc, par exemple, Macron, qui est pas forcément évident. Moi, mon point d'accroche sur Macron, c'est ses yeux, la fixité de ses yeux. Il a deux espèces d'yeux ronds qui m'ont toujours énormément frappé. Je trouve qu'il a un visage un peu de marionnette de bois, en fait. Et c'est bizarre. Il y a un côté légèrement inquiétant et à la fois familier. C'est ce qui fait à la fois son succès et puis le côté repoussant qu'il peut avoir. Et donc, ça, je me suis dit, tout va être dans les yeux, en fait. Donc, c'est la ronde comme ça, qui ne bouge pas, très inexpressive à la fois, et puis en même temps très puissante, parce que c'est pour lui, c'est une force. Ça me sert pour Macron. Ensuite, je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, moi j'aime bien poser la question aux gens d'ailleurs. Antoine Guillot, quand vous êtes dans votre douche, par quoi vous commencez pour vous laver?
Ça dépend si je me lave les cheveux ou pas.
Ok. Donc vous commencez, si c'est les cheveux, c'est d'abord les cheveux.
C'est d'abord les cheveux.
D'accord. Parce qu'en fait, si on interroge les gens, ça paraît une évidence, mais il y a des gens qui commencent à se laver le ventre, d'autres sous les bras, d'autres le cul, d'autres qui commencent à se laver les pieds. Il y a des gens qui commencent par les extrémités, puis qui vont vers le centre, d'autres qui vont vers le centre et vers les extrémités. Et en fait, ça dit énormément de choses de la perspective corporelle de chacun.
Et vous?
Et de la vision du monde. Ben, moi, je commence par le nombril, et puis je fais mousser le nombril, comme ça, vous voyez. Et donc, savoir que mon œuvre commence par le nombril, c'est, je dirais, assez porteur de sens, non?
Ah oui, là,
mais le nombril mousse mieux. Voilà. J'aime bien me faire mousser en commençant par le nombril. Voilà. En gros, c'est ça.
Je vais tout relire à partir de ça. Alors ça, c'est la discipline un peu de travail quand vous travaillez sur un album qui va être long. Mais je l'ai dit tout à l'heure, vous avez longtemps pratiqué le dessin de presse. Vous le faites encore un peu une fois par semaine à l'Humanité. Et vous l'avez aussi beaucoup fait, le dessin en direct à la télévision. Alors comment est-ce qu'on se prépare à ces exercices particuliers et de quoi on se nourrit, dans quel état on est au moment où on dessine, parce que vous n'avez pas le temps là, de faire forcément tout ce travail que vous venez de nous exposer.
Alors, le dessin en direct, c'est un truc très particulier. Effectivement, là, on est vraiment dans l'éclair, dans le trait, dans tous les sens du mot, c'est-à-dire le carreau d'arbalète qu'on décoche le plus rapidement possible, en visant le plus juste possible. C'est un dessin jeté, donc il n'y a pas un souci d'élaboration graphique très très sophistiquée, mais c'est le mot d'esprit, en fait. Et alors, ça dépend des émissions. Parce qu'une émission littéraire, bah, je suis au courant des écrivains qui sont invités sur le plateau. Parfois, je n'en ai jamais entendu parler, donc je regarde leur tête. Parfois, je m'entraîne un petit peu à les dessiner auparavant pour pouvoir tout de suite les mettre en scène. Effectivement, il y a cette question de la caricature. Je reçois souvent les bouquins qui sont... Alors, j'ai pas toujours le temps de les lire, mais du moins, je les feuillette, je vois dans quel univers ils apparaissent. Et en fait, la machine à blague se met déjà en route un petit peu en mode hors gel. Et puis, l'émission... arrivant, j'ai déjà plein de biscuits, d'une certaine façon. J'ai pas forcément les blagues toutes faites, toutes préparées, toutes cuites, parce qu'il faut s'adapter aussi à ce qui se passe sur le plateau, mais j'ai déjà des pistes. C'est pas pareil pour les émissions politiques, où là, on est vraiment sur, quand quelqu'un ouvre le bec, il faut saisir, faire écho, faut être un peu excité, c'est un état de surexcitation, un peu de transe, du dessin en direct, qui a pas du tout été préparé, c'est pas tout à fait comme une émission littéraire où on prépare préalablement. Surtout si ça se répète semaine après semaine. J'ai fait 4000 dessins pour la grande librairie. 4000, c'est vachement hein, quand même sur des écrivains. Et donc, c'est un peu différent. Mais en tout cas, il arrive aussi qu'il y ait des réunions comme ici, ou des colloques, ou des choses comme ça, dans des sphères de très, très, très différentes, où il faille faire des dessins en direct. Ça, c'est ce que je préfère, parce que pour le coup, c'est comme les DJ. C'est-à-dire qu'il y a une salle, il y a un public, et on voit que quand les gens se marrent, bah, du coup, on peut appuyer sur le clou, on peut faire des running gags. On peut aussi, évidemment, il y a des petits trucs de battleur, et donc les trucs en dessous de la ceinture pour la personne qui est avec vous sur scène ou qui s'exprime en direct, bah, on repère sa cravate qui est moche, une mèche qui dépasse, le fait qu'il ait des poils sur le nez, et là on y va, et en fait ça fait marrer tout le monde, c'est hyper un peu vicelard de faire ça, mais ça fonctionne, et ensuite ça permet de passer des choses qui sont plus profondes, mais en utilisant ça parce qu'il y a une connivence qui s'est mise en place avec le public. Ce dessin très rapide, moi, il y a un truc que j'adore. J'ai une théorie sur l'humour, en fait, français. Quelles sont les particularités de l'humour français? Et pour moi, il y a une chose, donc il y a cette influence de l'humour américain. En fait, le fait que ce soit un pays qui soit entre les influences, je dirais, anglo-saxonnes et nordiques d'un côté et latines de l'autre, ça fait que c'est pas la même façon de voir le monde. Je pense que la décolonisation et le fait qu'il y ait plus d'un million de personnes qui soient venues d'Afrique du Nord ont apporté un bouleversement dans l'humour. Et on voit bien que les grands humoristes, les grands comiques d'après la décolonisation viennent massivement d'Afrique du Nord. Et que d'un Jamel à un Gad Elmaleh, de plein d'auteurs comme ça, inspirés de tout ça, finalement de, je dirais, de Riyad Satouf à Johan Sfar, cette influence, je dirais,
à Jules, parce
de
que
l'Orient.
Vous avez un peu de Tunisie
voilà,
aussi.
Moi j'ai une famille partiellement tunisienne et ça vient de ça. Et ça, c'est aussi, ça informe l'humour français. Mais le fond de sauce, quand même, pour la façon dont ça s'est aggloméré, toutes ces influences-là, pour, faire une musique, une mélodie particulière de cet humour, c'est le 18e siècle, pour moi, et c'est l'esprit du 18e siècle qui a été partiellement détruit par la Révolution française, mais cet esprit-là, qui est l'esprit des salons littéraires, qui est, moi j'adore ce film Ridicule, Patrice Lecomte. Et avec ces personnages qui justement peuvent monter au sommet du pouvoir en un seul mot d'esprit, ou au contraire tomber du piédestal et être réduit à néant. Un seul mot suffit pour ça. Et cette rapidité-là, du mot d'esprit, du calembour, du bourrimé, cet esprit-là, voltairien, il est extrêmement important. Et cette légèreté et gravité simultanée, c'est une marque de fabrique, moi, à laquelle je suis extrêmement attaché. J'ai toujours été fasciné par ces gens-là, ces traits d'esprit. Je pense qu'on est vraiment héritier de ça, de manière importante. Et j'ai toujours été amusé par l'opposition entre un Voltaire et un Rousseau. Rousseau qui était toujours très très aigri vis-à-vis de Voltaire, parce que Voltaire était tellement brillant dans les salons, il avait toujours le mot qui tue, comme pour le dessin en direct dans les émissions. Alors que Rousseau, lui, ben, il avait exactement la bonne réplique, mais une heure plus tard, alors qu'il était en train de redescendre l'escalier. C'est de là, c'est des confessions de Rousseau d'ailleurs que vient l'expression « l'esprit de l'escalier ». Il dit « oui, mais moi aussi j'ai de l'esprit, mais j'ai de l'esprit dans l'escalier ». Ben oui, c'est trop tard.
Mais cet esprit n'est pas exempt de cruauté aussi par moment. Ça peut aller jusqu'à la méchanceté dans la version contemporaine, où on est tout l'espace audiovisuel et public est rempli d'humoristes qui sont parfois d'une grande cruauté, surtout d'un grand cynisme. Comment est-ce que vous vous posez la question jusqu'où je peux aller dans la cruauté, justement, et comment faire de l'ironie sans tomber dans le cynisme?
Oui, c'est une bonne question. Moi, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup trop de domaines qui se sentent obligés de mettre en scène sous l'angle de l'humour les choses, et que moi, je suis très très attaché à la notion de contexte, en fait. C'est vertigineux l'occurrence de cette question. Peut-on rire de tout? Et puis la réponse, oui, mais avec tout le monde. Ce truc-là, les dessinateurs d'humour, on leur pose invariablement cette question dans tous les débats, dans tous les interviews. Donc on sait même plus quoi répondre, on n'a même plus de pirouette, là on est à court de munitions pour répondre à ce genre de questions bateau. Mais elle dénote effectivement de l'importance du contexte, de d'où on parle, à qui on parle, dans quelles circonstances et à quel moment du temps on rit, en fait. C'est ça avant tout. Et les affaires extrêmement épineuses et douloureuses autour de l'humour qui ont été au centre du monde depuis quelques années, tournent autour de ça. Le fait qu'un dessin d'un quotidien danois ait pu être lu quasiment en simultané dans une madrassa à Peshawar, du fait de l'abolition par les nouvelles technologies d'un effet de terroir, de lieu, est emblématique de cette explosion du contexte. Et cette disparition du contexte est hyper dangereuse. Et en fin de compte, vous me posez la question, est-ce qu'on met des limites à la cruauté? En fait, un même dessin qui serait publié dans Charlie Hebdo, ou dans Minute, ou dans Télérama, ce même dessin, parce qu'il est ancré dans un journal qui a un passé, qui a un lectorat, qui a des présupposés, ne veut pas dire la même chose, évidemment. C'est pas le dessin en soi. Donc le dessin hors contexte, il est très dangereux. C'est comme une bactérie qui se serait envolée d'un laboratoire d'analyse des virus. On sait pas à quelle autre souche il va à se heurter et qu'est-ce qui va se passer. C'est vraiment un truc d'apprenti sorcier. Donc c'est pour ça que c'est dangereux. Moi, ce qui me gêne et me déprime parfois dans l'invasion de l'humour dans plein de domaines, c'est que précisément c'est une espèce de mélange sans goût. De mélanger de la confiture sur de la viande trempée dans du thé. C'est quelque chose qui est hors de propos parce que le contexte n'est pas là, en fait. Donc, moi, je pense qu'il n'y a aucun type d'humour, de dessin qui n'est a priori à proscrire ou dangereux ou douloureux. Il faut vraiment juste réfléchir à son apparition, au lieu et au contexte de son apparition. Quand je dois réfléchir et répondre à des questions sur est-ce qu'il y a des dessins que j'aurais regretté ou quoi, j'ai souvent une histoire que je raconte qui est, je m'en souviens, c'était dans Charlie, je crois, la mort de la skieuse Régine Cavagnou, qui a eu un accident. Je m'étais jamais intéressé au ski auparavant, probablement j'avais à peine entendu le nom de cette personne, mais j'ai trouvé une blague, et c'était presque une espèce de plaisir gratuit à faire. Et finalement, moi, mes premiers dessins dans le Julien Déchaîné, c'est des trucs d'humour noir sur les catastrophes aériennes, les crashs, les naufrages de ferry. Il y avait eu un naufrage de ferry en mer du Nord. Je me rappelle qu'à l'âge de 11 ans, je faisais des vannes là-dessus. Bon. Et avec, il y a eu plein de morts. Bon. Et donc, Régine Cavagnou, c'était la vie au sport d'hiver. Et puis, c'est un dessin en deux parties. La journée sur les pistes, on le voyait qui skiait. Puis, le soir en boîte, puis il y avait un cercueil. Et je trouvais ça marrant, en fait ça a fait marrer tout le monde et tout. Et puis on m'a reproché en disant mais pourquoi t'as fait ça, c'est vraiment d'une cruauté, imagine ce que pourraient penser les familles, les proches et tout. La vérité, vérité, on le sait très bien, et moi je l'ai observé depuis 20 ans quasiment que je travaille dans le dessin d'humour, c'est qu'en fait les gens qui sont directement touchés par quelque chose se moquent éperdument des commentaires ou des blagues qu'il peut y avoir autour, parce que c'est bien plus important que tout cette espèce de brouhaha médiatique qu'il peut y avoir autour. Et en fin de compte, les gens qui, maintenant, parce qu'il y a les réseaux sociaux, en plus s'offusquent, hurlent au scandale, c'est précisément les gens qui sont plus royalistes que le roi, qui sont pas directement concernés, et qui se mettent dans la peau de la personne qui pourrait être blessée, qui anticipent cette espèce d'offuscation, et c'est ça, en fait, qui est hyper dangereux, de vouloir faire la police pour les autres. En fait, je pense qu'il y a une responsabilité de chacun, et chacun est habilité à lui-même exprimer son rejet ou son refus, mais ne pas avoir des porte-paroles qui, à sa place, s'érigent en père la pudeur ou en docteur de vertu. Ça me semble élémentaire, en fait.
Oui, mais l'humour permet même de dégommer la mort d'une certaine façon, enfin de la lui faire rendre gorge. Vous-même, vous avez fait un épisode de Silex and the City qui s'appelait « Je suis Sapiens ». Après l'attentat contre Charlie Hebdo. Comment est-ce qu'on écrit un épisode pareil après avoir perdu beaucoup de vos copains?
Moi, j'admire le travail de Luz, qui a fait immédiatement, après les attentats de Charlie, un album, le travail de Catherine Meurice, ou bien de Philippe Lançon, de Valérie Manteau, des gens qui étaient liés à ça, qui en ont fait quelque chose, un objet littéraire. Moi, je ne suis pas du tout capable de faire ça. J'ai pas la bonne distance, sans doute, mais malgré tout, j'aime bien laisser quelques petits signes de piste, quelques petites lumières dans cette espèce de brouillard, de glauque de l'existence qui peut recouvrir les choses parfois, et de dire bon voilà, ces choses existent, on ne les oublie pas, c'est comme voilà, des espèces de petits cailloux qu'on pose, qu'on empile sur les tombes quand on passe dans certaines cultures, quand on passe à tel ou tel endroit, ou quand on emprunte un chemin, on pose un caillou, voilà, de dire c'est très présent, pour autant c'est pas obligatoirement mis en scène, mis en avant, voilà. Donc c'est, et donc effectivement moi je c'est pas quelque chose qui me nourrit profondément, même si on regarde effectivement mon travail depuis quelques années, il y a presque toujours un petit signe de piste, comme ça, le long du chemin.
Des signes, il y en a beaucoup de toute façon dans ces albums qui sont des chroniques du temps présent. Vous parliez tout à l'heure des rubriques à braque. Quand on les lit maintenant, il y a beaucoup de niveaux de lecture, pas seulement parce qu'il y a des références auxquelles on ne participerait pas, mais un gamin qui lirait aujourd'hui les rubriques à braque ne se rend sans doute pas compte que ça lui parle de la France des années 60, mais plus tard, peut-être, en faisant des études d'histoire, il retrouvera des choses comme ça. Est-ce que c'est comme ça que vous voudriez que vos livres restent? Est-ce que vous vous posez la question de comment est-ce qu'on lira vos livres dans 20 ou 30 ans, où tout le monde ne percevra pas, peut-être plus personne ne saura qui est l'homme de Cro-Macron, par exemple?
Alors, je me la pose pas a priori, mais si j'essaie de réfléchir à ce sujet, effectivement, j'essaie de... Contrairement au dessin de presse, quand je fais des albums de bande dessinée, de m'inscrire sur un temps légèrement plus long, même s'il y a des choses qui sont effectivement ancrées dans une actualité immédiate. Donc il y a évoluer plus pour gagner plus, qui est un des slogans du tome 1 de Silex and the City. Ça s'éloigne déjà, hein. C'était il y a quelques années, mais en même temps c'est resté dans l'inconscient collectif. Et le vrai truc, c'est qu'on aurait tort de croire, on est habitué, je dirais, à l'amnésie immédiate, et à cette espèce de machine à laver les cerveaux permanente qu'est ce robinet sans fin de l'information en continu et de la culture de masse. Mais il reste des choses quand même. Et donc, Sex and the City, je gage que dans 50 ans, 50 nuances degrés, je gage que dans 50 ans, on saura que ça a existé, en fait. Même si on ne sait pas exactement à quoi ça fait référence vaguement, on sait, ça suffit. C'est-à-dire qu'il y a des vannes du général de Gaulle dont on se souvient encore, des vannes de Clémenceau dont on se souvient encore, on sait même pas que ça vient de là, quoi. Mais pourtant, c'est resté dans l'inconscient collectif, en fait, des phrases de François Mitterrand, et donc des gens qui ont 20 ans utilisent des choses dont ils ignorent l'origine, mais ça vient de là. Et donc, je suis sûr que ces grandes tendances de la culture et de ces références-là, elles auront quand même une postérité, pour bonne part. Et puis, il y en a d'autres qui seront effectivement des scories balayées par le temps, mais j'essaie de jamais les mettre au centre de mon travail, de manière à ce qu'on puisse les enjamber, sans s'en préoccuper davantage, comme une fleur fanée au bord d'un chemin. Mais voilà, par exemple, dans le Lucky Luke que j'ai sorti, là, à Cowboy à Paris, il rencontre Victor Hugo, parce que l'idée, c'est qu'il doit escorter la Statue de la Liberté, sculptée par Bartholdi, jusqu'aux États-Unis, à New York, où elle a été offerte. Et effectivement, Victor Hugo a réellement visité le chantier, la statue qui s'est érigée à la Plaine Monceau dans le 8e, comme ça, au-dessus des toits de haussmanniens tout neufs construits. Et en fait, ce personnage de Hugo, je me suis dit, je vais mettre au centre un peu le travail de Victor Hugo, un peu en filigrane dans tout cet album. Donc il y a plein de blagues autour de Hugo, pas seulement c'est la rencontre qu'il fait vraiment avec Lucky Luke. Mais bon, ça finit d'ailleurs à la place de M. Paul Hanson Cowboy, il chante « Demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne », comme ça il s'éloigne vers le soleil couchant. Ça racontait quelque chose, malgré tout ça, en dehors des blagues que ça peut, et de l'humour que ça véhicule. Mais par exemple, il y a des trucs un peu cachés, typiquement des références qui sont oubliées, mais pas complètement, qui sont redigérées par la société. Dans les Lucky Luke, à l'entrée des villes, il y a toujours le nom de la ville et puis une espèce de petite devise qui correspond en disant « notre shérif est pauvre, mais notre croque-mort est riche », etc. Enfin, ce genre de choses. Il y a toujours une petite selon les types de villes. Et donc, moi, j'aime bien ce passage obligé-là des Lucky Luke et j'essaie de renouveler un peu dans mes albums de Lucky Luke cet art du panneau de ville.
La ville de Pitchipoy.
Voilà, Pitchipoy qui était en fait c'était l'équivalent yiddish, parce que comme c'était le précédent, c'était une famille de juifs orthodoxes qui immigraient aux États-Unis et Lucky Luke devait se cogner de les escorter à travers le Far West avec tous leurs rituels, toute leur culture pas du tout adaptée au monde des cowboys. Et puis ils arrivaient dans une ville un peu de desperados qui s'appelait Pitchipoy, écrite à l'américaine, mais c'était une américanisation du terme yiddish Pitchipoy qui littéralement veut dire nulle part. Même le trou du cul du monde, en gros. Et c'est l'équivalent, finalement, de Nothing Gulch, qui est la ville récurrente de Lucky Luke, en fait, la ville du rien. Et en même temps, il y avait une façon de... Encore une fois, signe de piste, il n'y a pas d'anachronisme dans Lucky Luke, donc les années 1880 avec les Juifs, on ne parle pas de la Shoah, évidemment, mais c'est difficile de faire tout un album sur les Juifs sans qu'on ait ça aussi en tête. Et donc, Pitchipoy, ça a été... par antiphrase, le nom qui a été donné dans le monde yiddish pendant la Deuxième Guerre mondiale à Auschwitz. Il est parti à Pitchipoy, il a été déporté en fait, il a été embarqué dans ce grand néant. Et donc, voilà un exemple de panneau de ville, mais là dans l'album du Cowboy à Paris, Bartholdi arrive dans une ville comme ça, et c'est... ça s'appelle Riverbank, bon, peu importe le nom de la ville, mais la devise c'est pouliche partout, shérif nulle part. Alors c'est une blague parce que les gens qui vont dans des manifs de temps en temps savent très bien que c'est un slogan qu'on tague sur les murs, qu'on scande comme ça, les manifs syndicalistes, depuis mai 68, on crie police partout, justice nulle part, comme ça, en rythme. Et donc on a l'impression que c'est juste une espèce de slogan gauchiste récurrent. Tout le monde ne le connaissait pas, HD, le dessinateur, lui, qui est dans le Gers, à la campagne, connaissait pas ce slogan, cette utilisation, mais quand même pas mal de gens le connaissent. Mais très peu de gens savent qu'en fait, ça vient du journal de Victor Hugo, en fait, ça vient des choses vues, et c'est une des premières annotations qu'il a écrite en se baladant dans Paris après le coup d'État de Napoléon III. Il a noté « police partout, point, à la ligne, justice, de point, nulle part ». Et donc ça vient de là, donc cette connerie de pouliche partout, c'était à la fois le syndicalisme, puis Victor Hugo en arrière-plan, donc il y avait une espèce de percolation de références, on pouvait y remonter, ou pas d'ailleurs, et puis juste se marrer de ce panneau de ville, même si on n'avait pas la référence, pouliche partout, justice, shérif nulle part, c'est marrant quoi. Voilà.
Précisément, puisque vous revenez à Lucky Luke, là où vous avez une liberté totale quand vous faites du dessin de presse, du dessin à la télévision ou vos propres séries, là vous rentrez dans un grand système de contraintes qui est à la fois un univers préexistant avec ses propres règles, et puis des contraintes qui sont d'ordre éditorial. Il y a un éditeur derrière qui vous met quand même une certaine pression, parce que sortir un Lucky Luke, on s'attend à un minimum de ventes quand même, et puis il y a des héritiers. Il y a la famille de Goscinny, la famille de Maurice qui avait créé Lucky Luke au départ. Comment est-ce que tout d'un coup vous vous retrouvez à discuter avec des gens alors que d'habitude vous êtes tout seul dans votre atelier et vous créez avec une liberté qui n'est limitée que par vos moyens?
Je m'étais préparé à la limitation de liberté quand j'ai commencé à travailler avec des adaptations audiovisuelles, parce que ça allait passer à la télévision, mon travail. Et tout le monde m'avait dit, mais c'est l'horreur, parce que la télé, c'est vraiment le lieu de la censure. Il y a 2000 personnes au-dessus de vous qui vont relire, qui vont couper. Et en fait, les studios d'animation, ils sont extrêmement frustrés. C'est des gens, en général, d'un talent, mais absolument ébouriffant, et qui doivent en permanence renier leurs exigences, renier leurs scénarios, parce que les chaînes, c'est en général du côté des unités jeunesse, des chaînes de télévision, on n'a pas le droit évidemment de voir un personnage qui fume, qui boit de l'alcool, qui tue quelqu'un, qui grimpe à un arbre sans avoir un casque. Et donc, en fait, le nombre de... Évidemment, on peut pas voir un cul, un sein, une bite, c'est impossible les présentations jeunesse à la télévision. Et en fait, du fait que ce soit Arte, on n'a pas gagné beaucoup d'argent, mais en fait, on nous a donné quasiment une carte blanche. C'est-à-dire qu'on arrive à faire des choses complètement délirantes. Beaucoup de sexe, de violence, de drogue. À 20h45, à une heure d'audience familiale sur une chaîne du service public, c'est quand même une liberté merveilleuse. Et donc, j'ai pris des mauvaises habitudes que j'ai gardées d'une certaine façon avec Lucky Luke, parce qu'effectivement, il y a des contraintes, mais c'est des contraintes tacites. J'ai pas eu un cahier des charges en me disant voilà, il faut faire ci pour Lucky Luke, ça pour Lucky Luke. J'ai parlé récemment avec un des dessinateurs qui est un des repreneurs de Mickey, parce que les éditions Glénat ont un accord avec Walt Disney pour reprendre les bandes dessinées de Mickey. Mais eux, ils ont beaucoup de contraintes, parce que c'est une firme internationale, que Disney a tout un code. Il n'y a pas ça pour Lucky Luke. On sait qu'il y a deux, trois choses qui sont de l'ordre du patrimoine, mais si je pouvais les justifier, finalement, je pense que ça pourrait passer, si je voulais les bouger, ces choses-là. Et d'ailleurs, il n'était pas écrit que Lucky Luke ne pouvait pas quitter les États-Unis, mais il ne l'avait jamais fait. Donc on aurait pu m'objecter que non, on n'a pas le droit de faire sortir Lucky Luke. Lucky Luke, c'est le Far West, sinon on va dérouter le lecteur. Bon, mais moi, j'avais suffisamment de biscuits, je dirais, pour le justifier historiquement, l'asseoir. Mais ça n'a même pas été la peine, parce que naturellement, on m'a fait confiance. Donc cette relation de confiance qu'il peut y avoir à la fois avec l'éditeur et maintenant avec les ayants droit de Maurice, qui sont des lecteurs fidèles de chaque chose, en fait, à partir du moment où je peux expliquer et justifier ce que je peux faire, en général, ça passe. Mais parfois, il faut faire effectivement passer par des explications textes.
Tout est dans le en général, parce que j'imagine qu'il y a des choses qui ne sont pas passées.
Oui, mais alors, les choses qui ne sont pas passées, c'est parfois des dialogues avec les éditeurs, qui en l'occurrence sont des éditrices. Pour Lucky Luke, j'ai deux éditrices avec qui je travaille depuis des années, et Gisèle Dehaene et Pauline Mermet. Et puis, il y a la discussion aussi avec le dessinateur, pour le coup, quand on travaille, parce que parfois, c'est le dessinateur qui objecte des choses. Donc, il y a une forme d'adaptation que moi j'ai appris justement en travaillant avec les équipes d'animation, qui aussi me disent ça c'est pas possible parce que il faut accepter ce dialogue là. Mais par exemple, à un moment, Lucky Luke, quand il rencontre Madame Bovary et Charles Bovary dans un train justement qui le mène à Paris, Charles Bovary, très égrillard, très 19e, comme ça, fait des petites remarques galantes à Lucky Luke. Je parie que vous venez pour une femme à Paris, ça m'étonne pas, un beau garçon comme vous. Et il lui dit, mais méfiez-vous, vous savez, des parisiennes, parce que on croit qu'elle vous appartient, et ensuite, elle laisse tout le monde leur grimper dessus. Et Lucky Luke dit, précisément, c'est un peu l'idée. Et elle leur dit, ah, d'accord, j'avais pas compris. Donc, il croit qu'il va avoir, évidemment, une poule à Paris. Mais en fait, effectivement, on va grimper sur la statue de la liberté ça va être un monument dont on va faire l'ascension. Eh ben, figurez-vous, par exemple, que les deux éditrices m'ont dit, mais ça te ressemble pas. Et en général, on trouve toujours des petits arguments un peu flatteurs pour l'auteur, de manière à ce qu'on puisse le manipuler et qu'il change dans la direction qu'on veut. Ça te ressemble pas, Jules, c'est un peu égrillard, c'est grivois tout, alors que c'est dans la bouche de Charles Bovary. C'était pas mon point de vue que j'assumais particulièrement, personnellement. Et du coup, ça, on a transformé cette phrase. Et donc, dans la bande dessinée, on ne dit plus, on croit qu'elle vous appartient, elle laisse tout le monde lui grimper dessus, elle laisse tout le monde lui grimper dessus. Elle laisse tout le monde lui rendre visite.
Beaucoup plus élégant.
On est dans le détail, c'est plus élégant. Ça me ressemble plus, comme dirait l'éditeur.
Est-ce que vous pensez au lecteur quand vous allez, que ce soit pour Lucky Luke, pour toutes vos séries, pour vos dessins, est-ce que vous pensez à la réception du lecteur et est-ce que le retour critique aussi de la presse notamment est quelque chose qui vous intéresse ou dont il faut en faire abstraction?
Je pense que l'humour, quand l'art est lié à l'humour, il prend une dimension différente. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres, des dessins, si on reste du côté du graphisme, des dessins, des œuvres de peintres, qui sont belles en soi. Et en fait, il n'y aurait personne, ce serait sur une île déserte quelque part, elles conserveraient leur beauté. L'humour, en fait, il est relationnel. S'il n'y a pas quelqu'un en face, ça n'existe plus. En fait, elle est dans cette humanité-là, dans ce lien qu'il peut y avoir avec la personne qui produit l'humour et la personne qui rit. On le fait pour quelqu'un. Et donc, en fait, vous savez, il y a des gens qui disent dans des débats, etc. « Ah bon, vous ne me comprenez pas ? Bah moi, je me comprends, moi. » Bah oui, le problème, on ne peut pas dire ça quand on fait des dessins d'humour en disant « Moi, je comprends mes blagues, vous les comprenez pas, moi, je les comprends. » Bah non. En fait, il faut quand même donner des codes. Alors pourtant, on peut aller assez loin, pousser assez loin les choses, mais en gros, voilà, il faut anticiper la possibilité de compréhension. Alors, on peut être exigeant, on peut avoir plein de références, mais il faut avoir une forme de générosité dans dans ce qu'on raconte et la façon dont on le raconte pour qu'il puisse y avoir cette familiarité, cette amitié qui se crée dans le dessin d'humour, je trouve, avec le spectateur, le lecteur.
Et pour ce qui est de la critique ?
Et pour ce qui est de la critique, en fait, non, là, c'est plutôt de l'ordre du narcissisme. C'est-à-dire, si on a des bonnes critiques, on est content. C'est un peu la médaille en chocolat. Et puis, par ailleurs, si plus les critiques seront bonnes, plus les gens auront envie de l'acheter. Alors, la question des mauvaises critiques se pose. Moi, j'ai eu de la chance. C'est-à-dire que tous mes premiers albums, alors que j'avais pas du tout de notoriété, de lectorat particulier, ont bien marché. Donc, il y a eu une espèce d'effet boule de neige où, finalement, des gens, fidèlement, se sont mis à suivre un peu mon travail. Et alors, effectivement, il y en a qui aiment plutôt la veine La Planète des Sages, Platon Lagaffe, d'autres qui sont plutôt Silex and the City, d'autres qui se reconnaissent plus dans Lucky Luke, mais il y a quand même une familiarité. Et puis, il y a des gens qui détestent mon travail. Et d'une certaine façon, plus le public s'élargit, plus il y a de chances de tomber sur des gens qui n'aiment pas du tout. Et c'est complètement légitime, à vrai dire, qu'il y ait plein de gens qui détestent aussi. C'est la variété du monde. Ensuite, moi, ce qui m'importait très souvent, c'était que les gens que j'admirais le plus ne rejettent pas mon travail. Et j'ai eu la chance que, parmi les artistes ou les auteurs ou quoi que j'admirais, un certain nombre de gens qui étaient mes maîtres ou ont eu suffisamment de bonté pour exprimer le plaisir qu'ils pouvaient avoir à lire mon travail. Et là, pour le coup, c'était évidemment, j'étais rouge de plaisir et flatté au-delà de l'imaginable, mais en même temps, c'était quelque chose qui validait, je dirais, la justesse de mon entêtement à aller dans cette direction-là en disant, je fais des choses qui me ressemblent, du moins, et les choses, moi, les gens que j'admire, même dans des champs complètement très différents du mien, s'ils apprécient ça aussi, peut-être que je me trompe pas complètement. Ensuite, il y a parfois des mauvaises critiques qui sont faites par des gens extrêmement limités. Et en fin de compte, c'est à passer le micro-énervement de la lecture, il y a une espèce de condescendance de ma part qui me protège d'une certaine façon de ces morsures-là, en disant mais le pauvre, il sait vraiment qu'il a l'esprit étriqué. Mais le truc, c'est assez rare. En fin de compte, de temps en temps, je me reçois quelques missiles, mais c'est quand même plutôt rare, compte tenu à la fois du temps passé à publier des choses maintenant depuis pas mal d'années, et puis de la réception assez large pour la plupart du temps de ce travail-là.
Merci beaucoup, Jules.
Ben, merci.
C'était la masterclass de Jules avec Antoine Guillot. Attaché de production, Nathalie Lempereur. Coordination, Arnaud Laporte. Réalisation, Clotilde Pivin.